Bonjour et bienvenue dans l'épisode de Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec un humoriste qui va nous expliquer comment il a créé son premier spectacle.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Aurélien Béliard, notre invité de cet épisode, qui est un humoriste. Il vient de sortir son premier spectacle, qui s'appelle « Moi, c'est pire ». Et en deuxième partie, on reste avec lui et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Bonjour Aurélien.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Bah cool, ouais. Je suis content d'être là.
Donc tu es un humoriste, tu as ton premier spectacle qui est au théâtre Le Lieu, de mai à juin. Ton spectacle est en rodage encore, il s'appelle « Moi, c'est pire ». Ça provient d'un jeu inventé avec tes amis. Chacun raconte une anecdote en commençant par « Moi, c'est pire » et tu expliques qu'à la fin, c'est souvent toi qui gagne.
Ouais.
Et donc ton spectacle, en fait, tu as choisi de mêler des thèmes assez tabous, difficiles, à des thèmes un peu plus légers. Est-ce qu'il y a un des deux que tu souhaites mettre un peu plus en avant?
Oh, wow. Donc déjà, je vois que tu ne m'avais pas du tout envoyé les questions avant. Comme ça, enfin, les auditeurs le voient.
Je n'ai pas envoyé.
Je suis complètement prévenu pour vous. En vrai, je ne sais pas si c'est des thèmes tabous. C'est des thèmes qui piquent. C'est des thèmes qui sont d'actualité. Moi, je ne les considère pas comme tabous. Bah, je ne pouvais pas écrire un spectacle sans parler de ce qui m'est arrivé, en fait. À partir du moment où je voulais écrire un spectacle, à partir du moment où je voulais être sur scène, je ne pouvais pas faire autre chose que de parler de ce qui m'est arrivé. Et les deux, je ne peux pas en enlever un de l'autre parce que c'est un équilibre, en fait, dans le spectacle que j'ai trouvé. Parce que c'est pas une conférence TEDx non plus, faut que ce soit drôle et faut que les gens ils s'embêtent pas.
Et tu as mis un trigger warning ou avertissement au public en français sur le sujet sexualité et la santé mentale. Combien de temps à peu près durent ces moments qui parlent de sujets sensibles pour que les personnes qui viennent te voir aient à peu près une idée?
Alors, avant de répondre, c'est une grosse question qu'on se pose en termes de production, parce que pour l'instant je suis tout seul, je fais la production avec ma femme. Est-ce qu'il faut prévenir les gens de quoi parle le spectacle ou pas avant? Parce qu'on n'est pas là pour mettre les gens mal à l'aise, mais en même temps, c'est aussi le but de l'art de provoquer, de bouleverser les gens. Maintenant, pour répondre à ta question, alors factuellement, quand je raconte mon histoire, ça dure chronométré 2 minutes 30 dans le spectacle, sans rien de graphique, parce que c'était pas le but, mais juste raconter ce qui m'est arrivé, ça dure 2 minutes 30. Et après, c'est des vannes et des stats. Quand je vais flyer les gens, au début, je disais que c'est un spectacle qui parle de violence sexuelle, de masculinité toxique et de tarte au citron. Ce qui, factuellement, est vrai. Sauf que j'ai senti que quand je disais que ça parlait de violence sexuelle, si je me retrouve face à que ce soit des hommes ou des femmes, je sens que un mec blanc sur scène qui parle de violence sexuelle, ça fait peur. Et je comprends pourquoi ça fait peur, parce que ça n'a pas toujours été bien fait. Et je ne dis pas que je le fais parfaitement, hein, mais voilà. Et du coup, j'essaie de communiquer peut-être un peu différemment en disant que ça parle de masculinité toxique, de santé mentale et de tarte au citron, toujours, parce que ça, je peux pas l'enlever, la tarte au citron, hein, je suis désolé.
C'était un gros parti de ton spectacle. Est-ce que quand tu t'es lancé dans le stand-up, tu avais déjà l'idée de ce spectacle-là? Enfin, un peu les prémices?
Ouais, en fait, pour te faire la genèse, vraiment ce que je raconte dans le spectacle, l'humour, c'est quelque chose qui m'a bercé tout petit. Vraiment, j'apprenais les sketchs des humoristes par cœur jusqu'à mes, je sais pas, peut-être jusqu'à 15 ans après, adolescent, je me suis un peu séparé de tout ça, je me suis mis à la musique. Et j'ai repris le théâtre pendant le Covid. J'ai fait partie d'une troupe d'impro et j'ai eu envie d'écrire un spectacle après avoir vu Blocks de Neil Brennan. Voilà. Et c'est vraiment, le spectacle devait parler de ça. C'était la pierre angulaire du spectacle, c'était la base. C'est la première pierre que j'ai posée et j'ai construit le spectacle autour de ça.
C'est dans tes débuts, tu as commencé à faire une troupe d'improvisation. À chaque fois, je pose cette question parce qu'on a reçu une troupe d'improvisation qui s'appelle La Limone et on s'est posé la question de pourquoi le stand-up marche mieux que les théâtres d'improvisation.
Ouais, j'ai entendu cette interview qui était magnifiquement menée d'ailleurs. et du coup, j'y ai réfléchi et j'ai une explication dessus, c'est que je pense que les gens ont besoin d'une tête d'affiche à aimer. En ce moment, en tout cas, c'est comme ça qu'on marche. Tu vois, mais c'est pareil en musique en fait. T'as beaucoup moins de groupes qui pètent. T'as des artistes solo. Et les gens ont besoin d'un artiste solo un peu à idolâtrer. Et je pense que c'est ça qui fait que le stand-up marche bien. Outre le fait qu'on ne coûte pas cher à produire, puisque tu n'as qu'un seul comédien à payer. Ouais. Souvent un seul régisseur donc, et pas de décor. Donc, c'est quand même pratique, à quelques exceptions près. Mais je pense que ouais, y a plein de facteurs. Mais un des premiers, c'est bah, t'as la mode et le fait que les gens ont besoin de rire en ce moment. Et le fait que bah, t'as une seule tête d'affiche. Et oui, après l'impro, comme vous le disiez, ça a un peu une mauvaise réputation dans le milieu du théâtre aussi. Ce qu'avait le stand-up il y a quelques années. Hein. Mmh. Il y a 10 ans, quand tu disais à quelqu'un qui fait du théâtre que tu faisais du stand-up...
Oui, ça n'avait pas...
Oui,
c'était
une merde globalement. Hein.
Et t'as passé combien de temps entre le moment où tu voulais faire du stand-up? Parce que on va revenir un peu plus là sur ton début de carrière. Enfin, ton début de
carrière, il n'y a pas de carrière.
Je sais, il n'y a pas de carrière. Chaque fois, je dis le mot carrière et tous les stand-upers sont genre, non, mais il n'y a pas de carrière.
Je joue dans un théâtre de 35 places que j'ai du mal à remplir tous les dimanches, hein, la gueule de la carrière.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est le début,
oui,
c'est de toutes
ça.
Les façons. Et
c'est
comment
marathon.
Tu cherches aussi des nouvelles personnes? Je me suis demandé, parce que donc t'es pas connu. Souvent, il y a les stand-upers qui sont venus ici, sont un peu connus sur Instagram. Ça les aide à avoir aussi des nouvelles personnes qui viennent voir leur spectacle. Toi, tu fais comment? C'est quoi tes outils un peu de communication?
J'aime bien comment tu me dis que je suis pas du tout connu sur Instagram, de manière très polie et détournée.
Mais non, mais pas du tout. Mais c'est normal, c'est les
non,
débuts.
Non, mais c'est vrai. Alors, moi, vraiment, les réseaux sociaux, j'essaie de communiquer un peu plus. Et c'est marrant parce que le dernier reel que j'ai fait, qui est celui qui a été le plus vu sans payer de pub, c'est justement... un reel suite à réaction d'un autre humoriste qui se disait féministe mais qui en même temps traite les femmes de féminazies et de folles et d'hystériques, donc, ce qui pour moi me semble incompatible. Et moi en fait j'ai du mal à communiquer dessus parce que même malgré ce qui m'est arrivé, je me sens pas légitime en tant qu'homme de m'emparer des questions féministes. Alors que la masculinité toxique nuit aussi aux hommes, elle nuit avant tout aux femmes, hein, qu'on soit d'accord sur le sujet. Hein. Mais bah, malheureusement j'en suis la preuve, c'est que ça fait aussi des hommes victimes. Puisque 95% des agresseurs sont des hommes, quel que soit le sexe de la victime. Et j'ai du mal à communiquer dessus sur les réseaux, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire de mieux en mieux, mais en même temps, il faut que mon compte reste un compte de blagues, donc je ne peux pas non plus être tout le temps énervé, tu vois. Ce que je fais beaucoup, c'est que je vais beaucoup flyer à Paris. En ce moment, je fais entre 10 et 20 km, voire 30 km à pied par semaine, à distribuer des flyers aux gens sur les terrasses, au canal Saint-Martin et tout. J'ai dû rencontrer presque 1000 personnes depuis, j'ai eu 4 refus et en fait juste franchement si vous avez un spectacle et que vous n'avez pas foi en l'humanité, allez flyer, les gens sont juste hyper gentils quand on n'est plus sur les réseaux sociaux ou sur la télé quoi. Les gens sont vraiment gentils dans la vraie vie.
Oui, parce que le spectacle où je suis venue, c'était quasiment que des personnes que tu connaissais pas et majoritairement tu avais demandé et c'était majoritairement des personnes que tu avais flyées.
Ouais. Dimanche on était 15, il y avait 2 personnes que je connaissais dans la salle.
Attends, ouais, donc ça marche bien.
Ouais. Mais c'est du long, tu vois. Il y a des gens que j'avais flyé le samedi et il y a des gens que j'avais vus il y a 3 semaines.
Ouais, donc c'est pas du direct. Moi, j'aurais plus pensé que tu flyes et puis ils viennent le lendemain, sinon ils le jettent et ils y pensent plus.
C'est
quoi.
Le plus efficace le samedi.
Ouais, voilà. c'est, ouais. Ça marche mieux le samedi. T'as un gros week-end, quoi. Tu bosses le dimanche et le samedi, tu fais...
Et j'ai la chance d'être déjà intermittent parce que je suis ingénieur du son à côté. Donc, voilà.
Oui,
t'as ça que sert l'intermittent, c'est la culture, messieurs les élus.
Ok, donc... Et d'ailleurs, cette double métier, c'est peut-être aussi quelque chose qui t'a aidé
ouais.
Quand t'as fait, autant d'avoir le statut d'intermittent qui est intéressant pour pouvoir avoir du temps, mais aussi, est-ce que t'as beaucoup travaillé sur des spectacles en tant qu'ingé son ?
Ouais, alors un peu de théâtre. Après, je fais beaucoup de conférences d'entreprise avec des multinationales qui t'expliquent qu'ils vont sauver la Terre avec des centrales nucléaires et des puits de pétrole, mais, mais ça rapporte de l'argent. Mais ouais, par contre... Ça fait presque 15 ans aujourd'hui que je suis ingénieur du son, donc je sais comment c'est la scène, je sais ce que c'est la technique, etc. Donc j'ai déjà des bases, et puis j'ai fait de la musique pendant 18 ans, donc je suis habitué à la scène quand même. Pas de groupe connu, mais j'ai dû faire 200 à 300 concerts, ou peut-être même plus que ça. Donc j'avais déjà des bases là-dessus. Par contre, il y a tout un pan du métier d'humoriste qu'on ne connaît pas, surtout débutant, c'est tout le pan prod, comme tu disais tout à l'heure, communication et tout. Et là, pour le coup, c'est un truc dans lequel j'apprends tous les jours et t'apprends des métiers tout le temps. Quoi.
Et tu commences à t'entourer de plusieurs personnes, parce qu'on voit sur Billets Réduc, pour l'instant, tu es auteur, humoriste, tu fais aussi ta mise en scène.
Alors, je me suis beaucoup entouré au début, j'ai pondu mon texte, j'ai vomi tout ce que j'avais à écrire. Après, j'ai été chercher des gens. C'est un conseil pour ceux qui débutent. Demandez à des gens que vous aimez en fait, sur Insta. Envoyez-leur des DM, des mails et tout. Et généralement, les gens sont contents de parler d'eux. Hein. Voilà. Ça flatte notre ego, donc il n'y a pas de souci. Et je me suis fait aider par Dan Gagnon, qui est un humoriste belge, et par une autre personne, mais je ne sais pas trop si elle a envie que je donne son nom, même si elle touche 5% de droits d'auteur, donc je ne vais pas la outer comme ça, qui m'ont vachement aidé à me structurer. Et puis j'ai demandé à plein de monde, j'ai demandé à Aude Galliou de l'Académie d'Humour, qui m'a donné plein de conseils. En fait, j'ai vraiment un bon conseil, c'est de ne pas avoir d'ego dans la façon de travailler et sur son travail, quoi. C'est tout le temps se remettre en question et...
Et quand ils t'ont aidé, c'est surtout sur l'écriture ?
Surtout, vraiment, je pose des questions surtout sur la technique d'écriture, sur comment se structurer, sur comment construire un récit. Il y a aussi Michael, un homme qui est scénariste et script doctor, qui m'a vachement aidé à structurer mon récit, qui m'a fait des retours dessus. Et surtout, j'ai posé pas mal de questions aux humoristes femmes. Et tu vois, il y avait des moments où dans le spectacle où ce que je disais, c'était pas clair et ça pouvait être mal interprété. Ou avoir des rires sales. Oui. C'est-à-dire que les gens rigolent, mais pas au bon moment de la blague. C'est-à-dire que tu dis un truc qui est choquant, et les gens rigolent à ce qui est choquant et pas au désamorçage. Et ça me gênait. Notamment quand je parlais d'homophobie. Oui. Voilà, au début, j'avais des blagues sur les mecs qui étaient homophobes, et en fait, je me suis rendu compte sur les premiers tests que les gens rigolaient pas là où j'avais envie qu'ils rigolent. Et ça me gênait.
Et comment tu décales ça ? Tu décales la phrase, tu prends, au lieu de faire tu fais quoi ? Tu me prends l'amorce, en fait tu fais plus d'amorce.
Tu prends ta souris, tu sélectionnes le texte et puis tu appuies sur supprimer.
Et tu supprimes tout et ouais.
Il y a des trucs que j'ai supprimés, que j'ai complètement réécrits. Mais par contre, tu vois, il y a des blagues, des fois ça devient comme ça d'un coup. Et il y a des blagues dans le spectacle, je les avais en novembre 2022 quand j'ai commencé à écrire et elles n'étaient pas bien. Et je les ai trouvées, j'ai trouvé la façon de les écrire, le bon ordre des mots, genre il y a 2-3 mois quoi. Parce que y a des fois, il y a un truc, tu sais que c'est censé être drôle, mais tu sais pas pourquoi ça marche pas. Et des fois, c'est une virgule, c'est un mot qui est pas au bon endroit, qui doit être placé avant. C'est mathématique, l'humour. L'humour, c'est chiant à écrire en vrai.
Oui, c'est la dernière personne que j'ai reçue. Il disait, en fait, il y en a certains pour les co-auteurs, c'est des mathématiciens. Il y en a qui sont très dans plus la créativité. Il y en a, c'est très mathématicien. Ils vont te faire des virgules, ils vont te reprendre tout et ça va être des formules, quoi.
Ah, moi, je suis geek comme ça.
Ouais.
Ouais, moi, je préfère passer plein de temps à écrire chez moi, à regarder ce qui va pas, à dire ah, mais attends, mais là, tu parles de ça, peut-être que ça peut aller avec ça, relier ce personnage-là, mais ce personnage-là, est-ce qu'il pourrait pas aussi être ce personnage-là parce que du coup, ça fait un machin.
Oui, c'est vrai que dans ton spectacle, il y a beaucoup de personnes qui reviennent.
Il y a beaucoup de callbacks. J'adore les callbacks.
Ouais, il y a énormément de callbacks. Moi, ça me fait beaucoup penser à Kian Kojandi.
Non.
C'est pas vrai, je te jure. On en a déjà parlé en sortie de spectacle. C'est une inspiration pour toi ?
Ouais, alors c'est ce que je disais. Les inspirations majeures du spectacle, ça a été Nanette qui m'a dit ok, on peut faire un truc là-dessus. Son spectacle, Nanette, il m'a bouleversé, mais c'était pas ce que je voulais faire en termes d'humour. Après, il y a eu Neil Brennan qui a fait Blocks, et là vraiment, je me suis dit ah, mais ok, on peut faire ça en fait. On peut parler de sujets sérieux, de faire des blagues dessus, et on n'est pas obligé d'avoir une vanne toutes les 3 secondes. Il y a des humoristes qui font une vanne toutes les 3 secondes, c'est très bien. Il y en a qui le font super bien et nettement, et qui font des meilleures vannes que moi. Moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie vraiment de faire un récit avec une histoire, des choses qui se suivent, des rappels. Et que les gens y sortent avec quelque chose à réfléchir, tu vois. Kian, évidemment, pour tout ce qu'il a fait, et pareil, le premier spectacle, Pulsion, je crois que Pulsion et Blocks, j'ai dû les voir une dizaine de fois chacun.
Ouais, ils sont...
Et Daniel Sloss.
Oui, Daniel Sloss, qui est très, très, très drôle.
Ouais, et j'essaie un peu, tu vois, de me rapprocher un peu de ce truc de Daniel Sloss, d'être fier de moi. Tu sais, il a ce petit côté un petit peu, je me la pète, mais gentiment. Et j'essaye de... Parce que dans la vie, vraiment, j'ai très peu confiance en moi. Et j'essaye justement de ramener ce truc-là un peu.
Après, lui, il a énormément d'ego. De ce qu'il nous dit, c'est qu'il a énormément d'ego et qu'il s'en cache pas. Il dit, je vais pas vous le cacher, j'en ai, tu vois. Peut-être que c'est pas toi non plus.
Est-ce que dans la vraie vie, il en a autant que ça, tu vois ? Je sais pas.
Je sais pas, parce que quand il raconte les histoires... Alors peut-être c'est la façon dont il les raconte, mais il est quand même dans une... Il se met pas dans une belle position à chaque fois.
Non,
tu vois ?
Oui. Non.
Donc c'est possiblement qu'il est comme ça et juste il l'assume aussi.
Mais après, c'est une alchimie à trouver entre ce que tu as envie de raconter, comment tu es sur scène. Et, tu vois.
Et donc, tu as créé tout un spectacle, mais c'est quoi qu'est-ce qui t'a aidé à avoir cette rigueur qui t'a permis de créer ce spectacle ?
C'est mes idoles, Louis de Funès, Gilles Grangier. Enfin, moi, je suis vraiment un enfant des Galettes de Pont-Aven et des vieux films français où vraiment l'humour, pour moi, ça a toujours été sérieux. Vraiment, tout ce que j'ai fait en humour, c'est pour moi, l'humour, il n'y a rien de plus sérieux. C'est facile de faire pleurer les gens. Hein. Tu mets une petite fille qui a été abandonnée par ses parents dans la rue, à Paris, avec un mec qui lui file un coup de pied, tout le monde pleure. Il n'y a pas de problème. Ou alors, il faut aller chez un psy. Si ça t'émeut pas, c'est qu'il y a un autre problème, tu vois. Et faire rire les gens, c'est dur. Ouais, mais là, faut les surprendre, tu vois. Faut...
Ouais, mais le drame, moi, ça me ferait pas pleurer. Ça me ferait juste, je serais mal à l'aise, mais ouais. Ça me ferait pas pleurer. Je pense que non, je pense.
Ah, moi, ce qui me fait pleurer, c'est les trucs joyeux. Hein. Moi, tu me mets des trucs joyeux, les nouveaux héros, tous les dessins animés joyeux, les films joyeux. C'est la grande chialade. Après, bah, ce qui m'a aidé à être sérieux aussi, c'est le livre de Christine Bérou, le livre de Judy Carter.
Que je connais pas, c'est quoi comme alors, il parle de quoi
Christine Bérou, elle a écrit. Alors c'est un super livre, mais il y a plusieurs éditions. Bah, c'est en gros, c'est comment écrire l'humour, quoi. C'est vraiment la bible de comment écrire l'humour. Judy Carter, c'est un peu la même chose, version américaine. Alors avec tellement version américaine qu'il faut acheter le livre, le cahier, le hardbook, le voilà, t'as plein de trucs à racheter avec. Et c'est vraiment, ça t'aide à te structurer. Franchement, Christine, elle a fait un travail de ouf où elle t'a montré tous ces trucs-là. Après, j'ai fait un stage avec l'Académie d'humour, un week-end d'écriture aussi. J'ai fait une masterclass avec Shirley Soignon. Enfin, tu vois, j'ai été chercher des gens qui savaient faire pour gagner du temps. J'ai écouté plein de podcasts. J'ai écouté tous les podcasts de Stand Up France, tous les podcasts des humoristes, qu'ils soient sur le sujet de l'humour ou pas, tu vois. Mais histoire de gagner du temps et d'éviter de faire les erreurs. C'est trop bien pour les gens qui commencent aujourd'hui, mais c'est tellement plus facile de faire de l'humour qu'il y a 20 ans.
Il y a énormément d'outils, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a plein d'outils, mais parfois, on a toutes les, pas mal avec Internet, on a absolument toutes les capacités de faire tout ce qu'on veut. Si on a envie, tu vois, on a juste à taper quasiment sur Internet et on pourrait faire tout ce qu'on voudrait. Mais il y a une différence entre pouvoir le faire et puis arriver à le faire. Qu'est-ce qui t'a fait que tu es arrivé à le faire et tu t'es donné une rigueur de bah, en fait, ça me dérange pas de passer toutes mes soirées à faire du stand-up Comment t'as passé le cap?
Le génie,
c'est ce que je me suis dit. C'est bien, il y a un petit côté Daniel Sloss qui revient.
Connard. Ce que je te disais, j'ai des troubles de l'attention à partir du moment où je commence à me lancer dans un truc. À partir du moment où j'ai voulu me lancer là-dedans. En fait, j'ai toujours voulu faire de la scène, vraiment. J'ai découvert la scène grâce à Monsieur Viennot au collège, qui ne voulait pas qu'on fasse de la flûte et qui nous a fait faire des concerts de percussion devant 300 personnes en troisième année. Et en fait, une fois que je me suis retrouvé sur scène, j'ai compris que c'était le seul endroit dans la vie où je me sentais vraiment bien. Ça, et dans les bras de ma femme, parce qu'elle avait écouté l'émission, et contractuellement, je suis obligé de le dire. Non, mais vraiment, sur scène, c'est le seul endroit où je me sens bien, et j'ai toujours voulu faire de la scène. Le Covid, ça a été un sevrage de drogue pour moi, vraiment. Parce que c'est pas sain, hein, de vouloir être sur scène. C'est pas normal de se lever le matin en disant « Tiens, je vais aller faire rire 50 personnes que j'ai jamais vues de ma vie. » C'est qu'il y a un truc à régler quelque part. Et je sais pas, moi, c'est toujours ça qui m'a motivé. Et à partir du moment où je me suis dit, je vais le faire, bah, je vais le faire bien, en fait. Enfin, je vais essayer de le faire bien et je vais le faire du mieux que je peux parce que j'ai envie que ça marche. Donc, si j'ai envie que ça marche, bah, faut que j'essaye que ce soit bien.
Je me demandais aussi à combien de pourcentage tes séances de psy t'ont amené à écrire ce spectacle.
Waouh! Je saurais pas dire. Le psy a contribué au spectacle parce qu'il est dedans. Alors, non, en fait, c'est pas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pas pu écrire ce spectacle si j'avais pas fait le travail psy sur moi. Parce que le public, c'est pas ton psy. C'est pas des psys qui vont payer pour venir voir ton spectacle. Pour moi, quand tu parles de trauma sur scène, c'est important d'avoir déjà réglé ces traumas. Parce que sinon, émotionnellement, déjà, en termes de jeu, c'est très dur à gérer. Mais moi, encore aujourd'hui, la fin du spectacle, la première fois que j'ai joué la nouvelle fin, il y a eu un moment où j'ai... voilà, on va redescendre à l'intérieur, on prend un personnage et on le garde. Hein. Donc le psy a aidé. Sans le psy, sans le travail psychologique, j'aurais pas pu écrire le spectacle. Mais c'est pas ça qui a déclenché le truc, tu vois.
Et tu saurais aussi quantifier le nombre de temps qu'il t'a fallu pour lancer ton spectacle, entre les premiers essais sur scène jusqu'à la première fois où t'as vraiment montré au public.
Ouais, j'ai commencé à l'écrire en novembre 2022. J'avais 5 heures de texte.
Oh, wow.
J'ai pas dit que j'avais 5 bonnes heures de texte.
Non, mais t'as quand même écrit 5 heures de texte.
J'ai écrit 5 trucs. Ouais, alors après, tu vois, quand j'étais au collège, j'avais toujours 10 sur 20 en rédac parce que j'étais hors sujet. Très bien écrit, mais hors sujet. Voilà, donc quand je commençais à écrire, je vomis du texte. Donc j'ai commencé à écrire en novembre 2022. J'ai fait ma première scène de stand-up au Wishing Light Comedy Club en juin 2023. Et j'ai joué pour la première fois le spectacle en décembre 2024.
Donc ouais, 2 ans.
Ouais, et la première fois du spectacle était loin de la version qu'on a aujourd'hui. Et,
aujourd'hui, il est encore en rodage, donc il va encore changer.
Et qui encore change, et voilà. Il va très peu changer, en vrai. Là, c'est peut-être des petits blocs qu'on va être obligé d'enlever, parce que dans les théâtres parisiens, il faut que le spectacle fasse 1 heure, et de la mise en scène. Mais globalement, après, l'articulation du spectacle ne changera pas, je pense.
Et pour les auditoristes les plus timides, est-ce que c'est un spectacle qui interagit beaucoup avec le public ?
Pas tant. C'est-à-dire que si vous cherchez un humoriste qui va prendre le premier rang et le roaster pendant 1 heure, faut pas venir me voir. que ce ne sera pas le cas. Des fois, je pose des questions aux gens. Et d'ailleurs, dès le début du spectacle, j'essaye de mettre les gens à l'aise. Et je leur dis que de toute façon, ils auront plein d'autres occasions d'être mal à l'aise pendant le spectacle. Je demande aux gens qui ne souhaitent pas participer. Parce que c'est un spectacle quand même qui parle beaucoup de consentement. Donc, ce serait un petit peu dommage de ma part d'aller faire chier des gens qui n'ont pas envie d'être emmerdés par un chauve de 40 ans un dimanche soir. Quoi. Ce que je peux comprendre.
Et pour la dernière question que je pose à tout le monde, quel conseil on t'a donné et qui ne t'a pas aidé?
Ouah, c'est chaud. C'est marrant parce que j'ai écouté les autres émissions, tu vois, j'ai même pas du tout réfléchi. Quel conseil on m'a aidé? Quel conseil on m'a donné et qui ne m'a pas aidé?
Peut-être pendant que tu as fait ton spectacle, quand tu étais dans des ateliers, des choses comme ça, ou avec d'autres stand-uppers.
En fait, j'en ai un qui me vient en tête, mais il m'a pas aidé, mais il est bon quand même. C'est le fait de faire un maximum de plateaux de stand-up. Moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps à écrire qu'à aller sur les plateaux. Il y a des humoristes qui ont une idée, ils vont en plateau, ils improvisent un truc, ils testent et ils gardent ce qui est bon. Moi, je préfère passer 4 heures chez moi à écrire, à retourner la blague, à l'écouter, à m'enregistrer, à me regarder, à voir ce qui va pas et tout. Après, aller en plateau, dire « Ok, elle passe, elle est validée. Non, elle n'est pas validée, machin. » Je pense que c'est juste deux façons de fonctionner. Mais après, tu vois, je rattrape aussi. À côté de ça, j'ai moins de temps de scène que d'autres. Et donc, des fois, peut-être un peu moins d'aisance et des choses comme ça que je dois rattraper. Mais un vrai conseil qui ne m'aurait pas aidé.
Mais ça, c'est un conseil qui ne t'a pas aidé. Dans le sens où un conseil qui ne t'a pas aidé, c'est pour toi. Qui ne t'a pas aidé, voilà. Toi. Parce qu'en soi, les conseils, ils sont toujours d'une certaine façon bons. Ça dépend juste à qui tu le donnes.
Je te dis, je te conseille ce champignon rouge avec des points blancs.
Oui, mais il y a rarement des gens qui font ça. Mais donc, c'est vraiment ce côté, qu'est-ce qui, toi, ne t'a pas aidé, alors qu'en vrai, ça aurait pu aider à plein de personnes. Donc, merci.
Ouais.
T'as parfaitement répondu à la question.
Ouais, c'est parce que je suis parfait.
Mais exactement, c'est bien. Tu veux plus d'ego, je peux t'en envoyer.
J'ai besoin d'amour.
Et ben écoute, merci Aurélien de nous avoir ouvert les portes de ta vision de l'humour. On te retrouve tous les dimanches à 19h jusqu'en juin au théâtre Le Lieu à Paris. Tu restes avec nous pour la deuxième partie. Et Aurélien est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites. Et comme un petit bac classique, les réponses commencent toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre, je vais lancer l'alphabet dans ma tête et tu me dis stop quand tu le sens. Je commence par A.
Tu me dis de dire stop en régie, c'est ça parce que c'est trop long. Stop.
G. On est donc sur la lettre G. Pour les personnes, les auditeuristes qui nous écoutent, on va vous dire les catégories si vous voulez jouer avec nous. Il y a le nom d'un village breton, le titre d'une chanson française des années 80, le titre du prochain livre de Bayrou, le nom d'une marque de vêtements créée par un mascu, un nom de psy pas rassurant. Donc ça serait tout ça et ça doit commencer par la lettre G. Ça peut être un mot, une phrase. On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après.
All my life been a black sheep. All my life been a black keys. True, I never really was a bad breed. My daddy probably rather me an athlete.
True that.
Man, a nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. I've been feeling real low, nigga, low key. Have a brave heart, feeling so weak. Tattoos on my passport, no sleep. This is what you ask for, don't weep. Don't whinge, man, I'm here, won't leave. All I wanna do is make songs, blow trees. Wouldn't be honest with myself if I don't speak. So I make the point to address a man, you know me. Got me believing in Buddha, the more I proceed. Oh, this life ain't guaranteed. All my life felt a cold breeze. In and out, but staying up and never down. You're hearing me now, give me some time and a little space. I'll figure it out, they wanna know my whereabouts and who I'm around. Been in one and half a time, trying to find a way out. You can hear it in my rhymes, I'll be thinking I'ma be ghost for a minute. Don't get in your feelings, I ain't even wrote for a minute. Not a single lyric, man, I got a life that is crazy. Most cannot live it, see him trying to sabotage. Got me fucking living all my life. Been a black sheep. All my life been a black kiss. True, I never really was a bad breed. My daddy probably robbed me an athlete. Man, a nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. And I miss cool everyone. What? All I hear him saying is, look what you become. What? This is what you signed up for. Did you forget? This is what you get. This is what you get. All these eyes in the front row. Hella pure souls in the front row. Remember seeing J. Cole, I was in the front row. Couldn't move, was an ought if you must know. Still struggling to find who I trust though. All my life in a cut though. Yeah. All my life, caught the bus home through the north side. Got a pedal bike, mummy flipped when I got home. Like people get killed out here, but mummy, I'm a rider and a fighter. Never been a dick in a life, don't ever try me. Don't get it confused because I'm humble and I'm quiet. Loud niggas step into Sims and get silenced. I ain't gotta say how and it don't involve violence. Though I got G's that are ready and they're here for it, but there's no need. I just want peace, take me higher. Get an eight from the supplier. Make your mind up what you need, what you desire. Niggas hating, but it's cool, man, it's a minor. I just do me in my own lane, I'm the driver. 23. Feeling older, wiser. All my life is such to what I die for. Guess I am the one people I'ma fight for. Surely you should know who you rep, know who you ride for. All my life been a black sheep. All my life been a black keys. True, I never really was a bad breed. My daddy probably rather me out. Man, a nigga move like a taxi. All my life in the backseat. You talk about life, is it that sweet? All these eyes staring at me. Hey, phone rings and I miscalled everyone. What? All I hear I'm saying is, look what you become. What? This is what you signed up for. Did you forget? This is what you get. This is what you get. Hey. This is what you signed up for. Did you forget? Hey, this is what you get. Hey, this is what you get.
On vient d'écouter Backseat de Little Sims. Et donc on revient pour le petit bac revisité avec Aurélien Béliard. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je te rappelle que ça devait débuter par G. Les catégories, on a le nom d'un village breton.
J'ai Guinaman-sur-Mer.
Ah oui.
Guinaman. En plus, c'est un village qui est refuge pour les personnes LGBT.
Ah, c'est
très
génial.
Joli village.
J'adore.
Ouais. Non, il est vraiment très sympa. Il y a une petite côte, il y a des petites falaises, il faut juste faire attention les jours de pluie, mais sinon, c'est très sympa là-bas.
Eh bien, écoute, j'irai. En TER, ça, c'est accessible. Ça va.
Ça se fait rapidement.
Ça se fait rapidement. Ouais. Moi, j'avais Garnikek. Ça me faisait juste penser Garnikek, un petit village, mais dans le centre, un peu paumé, du style quand tu dis que tu es en Bretagne et puis les autres ils disent qu'ils viennent de Nantes, t'es un peu vénère parce que toi tu viens de vraiment la vraie Bretagne.
Mais je crois qu'il existe, c'est le village qui a inspiré le tableau de Picasso à la base,
oui,
il me semble.
Exactement. Le titre d'une chanson française des années 80.
Gaga Yo-Yo de Lady Cordy.
ça marche très très bien, j'y crois.
J'ai envie d'écouter le remix d'ailleurs.
Oui, à quelqu'un un peu dans la musique électronique qui le reprendrait à la sauce d'aujourd'hui.
Moziman, vas-y, fais-nous ça.
Ah ouais, carrément. Moi j'avais Gare à toi ma petite, je n'irai tout dans 40 ans.
Putain, c'est toi qui devrais être humoriste en fait.
Et je suis autrice
drôle.
Déjà.
Ouais, c'est pour ça.
Le titre du prochain livre de Bayrou.
J'ai perdu la mémoire, elle doit être avec ma dignité.
Ah, mais c'est-à-dire qu'il assumerait ce qu'il a fait. Moi, j'aime bien cette idée-là, mais j'y crois moins. Et moi, j'avais grand malentendu, grande révélation. Et puis, il dit non, mais en fait, c'est parce que j'étais sous la douche, j'entendais pas bien de l'oreille gauche de 80 à 86. Et puis, il se trouverait un peu des. Ça donnerait envie, le titre. En fait, il n'y aurait rien dedans. Un peu comme.
La soif de honte. Ah non, pardon, non, c'est quoi?
Le nom d'une marque de vêtements créée par un mascu.
Gros Kiki.
Oh oui, mais très bonne idée. Moi, j'avais juste gars.
Avec une seule bande, tu vois. Ouais. Ouais, ça marche aussi gars.
Gars, genre il est vénère et tu sais, genre les mascus et les muscus qui sont là. Vas-y, on y va.
Ils bondent leurs muscles comme s'ils allaient faire caca.
Oui. Un nom de psy pas rassurant.
Du coup, la lettre G, c'est assez facile quand même. Il y avait Gérard Miller, quoi.
C'est cool. J'ai pas moi.
Ben, Gérard Miller, c'est un psy qui passe à la télé et qui est accusé de multiples viols en fait. J'avais lui ou Goebbels, hein, c'est les deux premiers qui me sont venus.
Ouais. Ah oui, ok.
Gabriel Attal, Gérald Darmanin, il y en a plein que j'aimerais pas avoir en psy. Hein.
Moi j'avais Greggs de Betaram. Déjà le truc Greggs, déjà ça me donne pas envie, mais alors Betaram ça rajoute un petit truc en plus.
Bah tu mets de Betaram après un truc, tu vois. Même une tarte à la fraise de Betaram, t'as pas envie de la manger, tu vois.
Ouais, c'est fini. Ouais. Le pauvre petit, c'était un village en plus, c'est un nom de ville à la base.
Oui, mais ils ont pour rien, mais.
Ouais. Merci à toi de t'être confié.
Merci à toi de m'avoir invité.
Et avec grand plaisir de t'être confié au micro de Blague à part. On te retrouve tous les dimanches à 19h jusqu'en juin au théâtre Le Lieu à Paris. On te retrouve aussi sur Instagram à aurélien.béliard.
Ouais, je me suis pas fait chier sur le titre.
Mais c'est bien parce que la com est très bien faite parce que vraiment on comprend tout de suite. Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans 2 semaines, toujours à 18h sur le 93.9 FM.